Décryptage. Anne Corpet.
Les manifestations se poursuivent en Iran malgré une violente répression. Cela fait maintenant plus de 2 mois que les Iraniens et surtout les Iraniennes descendent dans la rue et scandent « Femme, vie, liberté », le slogan de ce mouvement de protestation que certains appellent déjà « révolution ». Ni le régime ni les manifestants ne semblent pour l'instant en mesure de l'emporter. Mais les tensions s'accroissent et chaque camp semble se radicaliser. Plusieurs condamnations à mort ont été prononcées contre des manifestants sans pour autant intimider les protestataires qui semblent élargir leur rang. Ils se sont attaqués à des symboles intouchables comme la maison où est né l'ayatollah Khomeini, fondateur du régime islamique iranien. Ce soir, dans Décryptage, nous tenterons de comprendre ce qui se passe en Iran. Et avec nous en studio, Bernard Ourcade, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et au Centre de recherche sur le monde iranien. Vous avez écrit « L'Iran paradoxal » aux éditions du CNRS. Et avant de commencer, je voulais vous faire écouter ceci. Ce qu'on entend, c'est l'hymne de la République islamique diffusé lors du match Angleterre-Iran à la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar. Aucun joueur de l'équipe nationale n'a chanté cet hymne, ni un silence voulu, des visages fermés en signe de solidarité avec les manifestants et d'hommage aux victimes de la répression. Bernard Ourcade, cela a un sens, ce genre de manifestation? C'est important?
Un sens énorme et devant des millions, des dizaines de millions de spectateurs. Certains, jusqu'au boutiste, ont reproché à l'équipe nationale iranienne de participer au championnat du monde. Le geste qu'ils ont eu, le silence qu'ils ont fait, était très clair. Et je crois que c'est un signe très important parce que l'équipe de foot iranienne est vraiment le symbole national. Tout le monde, ce n'est pas le gouvernement. Et chaque fois que l'Iran a eu un succès international, les rues de Téhéran, avec des femmes non voilées, étaient envahies. Et le gouvernement même tapait sur les manifestants se réjouissant d'une victoire de l'équipe nationale. Donc que l'équipe nationale iranienne, est nationale et pas islamique son nom officiel, ait fait cela, c'est un geste extrêmement important.
Ils prennent des risques, ces footballeurs?
Certains d'entre eux ne sont uniquement à l'étranger, mais la plupart sont en Iran, vivent en Iran, leur famille est en Iran. Il y a un risque évident, c'est un engagement extrêmement fort, d'autant plus que c'est un monument national, cette équipe. C'est beaucoup plus que quelques vedettes de cinéma qui se soutiennent le mouvement ou des personnalités importantes. C'est un des symboles hauts, des statues de l'Iran national qui est populaire et qui penche du bon côté.
Et cela peut gêner le régime ?
Gêné, oui, parce que c'est le régime se vante d'être populaire, d'être une république, d'être faire le bien du peuple. Là, à l'évidence, les symboles du sport populaire se tournent et se détournent. Et donc ça, c'est un élément important. Et parmi les symboles, jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de symboles avancés en Iran. C'est peut-être le symbole le plus fort auquel on a assisté.
Et pendant ce temps-là, en Iran, on scande ceci dans les rues. N'ayons pas peur, nous sommes tous ensemble. Ces slogans ont été enregistrés ce mardi 22 novembre à la tombée de la nuit dans une rue de la ville de Mor dans le sud de l'Iran. Bernard Ourcade, le mouvement a commencé dans les grandes villes, à Téhéran. Mor, c'est une ville moyenne, un peu plus de 6000 habitants, si j'en crois les sources que j'ai trouvées sur Internet. Alors, est-ce que ça veut dire que la contestation continue de s'étendre et qu'elle se concentre sur quelle partie du territoire actuellement?
Ce qui est très intéressant et nouveau dans ce mouvement, c'est qu'il n'est pas géographique. Je fais de la géographie. Il y a une carte qui a été publiée hier par un journal iranien montrant la géographie des manifestations. Mais ce qui est important, c'est que justement, c'est l'ensemble de l'Iran, la totalité de l'Iran, qui fait 85 millions d'habitants, 2 fois et demi comme la France, qui est touchée. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème, on en parlera je pense, de Kurdes, de Balouches, ou d'ethnie ou de religion, ou d'une catégorie sociale. Mahsa Amini était n'importe qui. C'était une femme de 26 ans qui était d'origine kurde, mais ce n'est pas important tellement cela. Elle était à Téhéran, elle se fait embêter, tuer, pour rien du tout. Et donc ça touche la totalité des Iraniens. Que l'on soit dans une petite ou une grande ville, c'est pareil. On voit aujourd'hui un élément très important qui, paradoxalement, est la conséquence de la politique de scolarisation faite depuis 40 ans en Iran. Au Kurdistan, il y a 40 ans, 80% des femmes ne parlaient pas persan et étaient illettrées. Aujourd'hui, toutes les femmes parlent, sont alphabétisées et parlent le persan. Autrement dit, il y a une culture nationale qui s'est répandue, islamique, contrôlée par l'État, avec tout ce que l'on peut savoir. Mais aussi, les gens dans toutes les catégories du pays, et même dans les villages, les villages sont sur Internet comme tout le monde, ils ont le téléphone, ils ont des routes. Autrement dit, il n'y a plus de différence ville, campagne, centre-ville et banlieue. Tous partagent, à des degrés différents, bien évidemment, il y a des différences régionales, mais tous partagent une même culture, c'est-à-dire une réalité que l'on connaît bien, qu'on aura l'occasion de développer, mais aussi des aspirations qui sont communes. En étant éduquées et instruites, les femmes et les jeunes et les hommes et les classes moyennes ont découvert notre monde et ne sont pas prêts de lâcher. Donc ce qui se passe en Iran est très important pour l'ensemble des pays du monde, parce que ce n'est pas original à l'Iran, et en Iran, c'est tous les territoires qui sont concernés, même si ici et là, pour des raisons ponctuelles, il y a plus de combats ou de révoltes pour des raisons pratiques ou locales, mais le phénomène est national, ça c'est nouveau.
Et alors ce sont les femmes qui ont lancé ce mouvement, mais aujourd'hui les hommes y participent, les jeunes en particulier. Et est-ce que la contestation touche aussi toutes les générations maintenant ?
Non, c'est un peu plus compliqué. Mon ami Rostro Ravar Farad, qui a publié dans ces jours-ci un article intéressant montrant que le mouvement avait commencé avec les femmes, parce qu'effectivement c'est une jeune femme qui a été tuée, et les femmes sont celles qui ont subi ou vécu ou entrepris la plus grande révolution depuis 40 ans. Les hommes ont tout de suite embrayé. Ce n'était plus simplement femmes qui veulent faire tomber le tchador, c'était la liberté. La liberté, c'est-à-dire revendication politique et sociale. Deuxième étape. Et troisième étape, c'est une revendication qui est beaucoup plus globale sur le régime politique à bas le dictateur. Autrement dit, on est passé d'une révolution, enfin, de mouvement qui était uniquement féministe pour des raisons conjoncturelles, mais a fait éclater toutes les contradictions qu'il y a dans la République islamique. Et ça, c'est, je crois, très important. Le problème, c'est qu'effectivement, pour des raisons qu'on aura l'occasion de discuter, je pense, tout à l'heure, la mobilisation de toute la population n'est pas identique. Autant les très jeunes, qui n'ont pas de contraintes. Une fille ou garçon de 20 ans n'a pas de contraintes économiques. Il en a marre, il veut vivre aujourd'hui, et donc c'est un mouvement très profond. Par contre, ses parents qui ont 40 ans, 50 ans, ont des problèmes économiques gigantesques à cause des sanctions économiques imposées par la République islamique et par Donald Trump. L'Iran le seuil de pauvreté est officiellement de 38%. C'est énorme, un pays qui est riche. Autrement dit, les gens doivent payer les traites, payer leur logement, payer la scolarité de leurs enfants, ils ne peuvent pas. Et les questions de paralysie économique paralysent aussi la motivation de ces gens-là. Ils disent, écoute ma fille, ton tchador c'est important, la liberté c'est important, mais moi, j'ai mes fins de mois à assurer. Et donc, je te soutiens moralement, mais je ne vais pas dans la rue.
Ils ne vont pas dans la rue.
Ils ne sont pas dans la rue, apparemment. Et c'est là que j'ai beaucoup hésité à venir ce soir vous parler sur RFI.
Parce que vous dites apparemment, c'est-à-dire la question c'est au fond, est-ce qu'on sait ce qui se passe ?
Je suis géographe et j'habitue de travailler à partir de documents de terrain, d'aller sur place, et vous journaliste aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de chercheurs en Iran, il y en a une effectivement, c'est une de mes collègues qui est en prison depuis 3 ans. Des journalistes, il n'y en a pas, ou pratiquement pas de journalistes libres ou étrangers. Il n'y a pas d'entreprise étrangère, il n'y a quasiment plus de diplomates. Donc tout se fait en secret, isolé. Donc on apprend un certain nombre de choses, mais on ne sait pas réellement ce qui s'est passé.
Est-ce qu'on peut se fier aux réseaux sociaux, justement, qui jouent un rôle important dans ce mouvement ?
Les réseaux sociaux sont en avance. Pourquoi ? Parce que le reste n'y est pas. Si vous étiez, si RFI était à Téhéran, s'il y avait...
On est à Téhéran, on a un correspondant.
Et le malheureux, il est coincé, et dès qu'il fait un pas dehors, il a 3 policiers qui sont derrière lui. Bon, il n'y a pas de liberté d'expression en Iran actuellement. Autrement dit, le fait de ne pas avoir de témoins sur place fait qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe. Alors, les réseaux sociaux, Internet, je reçois tous les jours des dizaines de messages disant « voilà ce qui se passe ici et là ». Je vois une séquence de 15 secondes sur un événement dramatique. Mais dans une ville, dans une petite ville, et l'Iran, c'est 85 millions d'habitants et 2,5 fois la France. Et donc, pour mesurer vraiment cela, il faut être sur place et on ne le sait pas. Les réseaux sociaux sont une loupe peut-être grossissante et trompeuse peut-être. Donc, il y a 30 morts par semaine, c'est sérieux, c'est très grave ce qui se passe en Iran. On ne peut pas simplement se fier sur Internet pour essayer d'évaluer une politique vis-à-vis de l'Iran. C'est plus compliqué.
Alors, il y a un autre aspect qui concentre un peu l'attention, les regards de ceux qui s'intéressent à la situation en Iran, c'est la position du bazar de Téhéran, des commerçants. Il y a eu un appel à la grève des commerçants à l'occasion de l'anniversaire de la révolte de novembre 2019. Les marchands ont fermé leurs magasins entre le 15 et le 17 novembre. Est-ce que c'était significatif et est-ce que c'est important, cette mobilisation des marchands?
Le symbole est très important. Mais malheureusement, je n'étais pas dans le bazar de Téhéran pour vérifier ce qui s'est passé. Donc, on a vu des photos de boutiques baissées. Il y a eu effectivement des commerçants qui ont baissé à Téhéran, à Tabriz, à Kerman aussi. C'est normal, je dirais, c'est traditionnel, c'est important, parce que c'est le symbole de, disons, du commerçant traditionnel islamique et musulman, donc plutôt proche des mollahs et de la République islamique. Mais ça a beaucoup changé aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? J'en sais rien. J'étais en 78-79 à Téhéran, j'habitais à Téhéran, lorsqu'il y avait la grève des bazars. Et je vous garantis que ça se voyait. Ça se voyait, ça se sentait.
On n'en est pas là.
On n'en est pas là. On n'en est pas là, apparemment. Hélas, ou tant mieux, je n'en sais rien. Mais soyons prudents pour ne pas dire des choses qui n'existent pas et dont les victimes seraient les gens qui sont en Iran. Et nous, ici, on est tranquilles.
Et il y a aussi une dimension anticléricale qui est apparue avec cette pratique de faire sauter les turbans des religieux. On voit ça sur les réseaux sociaux aussi. S'attaquer comme ça aux mollahs, ça n'a rien d'anodin en Iran, c'est nouveau.
Mais le message est de dire au mollah, vous voulez que les femmes aient un voile, donc quand vous sortez dans la rue, quand je sors dans la rue, je dois mettre un voile, vous sortez dans la rue, regardez ce que ça vous fait si on vous enlève votre turban. C'est une insulte, vous êtes vraiment choqués de cela. Donc nous autres aussi, nous sommes choqués qu'on nous impose cela. Ça c'est une chose, et je crois que le message est important, on ne respecte plus rien. Le point de non-retour est acquis en Iran. Ils ont tué beaucoup trop de monde, des enfants, des jeunes, n'importe qui a été tué. Les symboles du religieux ont été touchés. Or, l'Iran est un pays musulman.
Et s'attaquer à la maison natale de Roumanie aussi.
Ça, c'est un symbole politique très fort. Mais je dis, enlever le turban des mollahs est plus important parce que ça touche un peu le curé du village, le curé du quartier, pour lui dire, tu n'es pas bienvenu. Et si tu veux faire quelque chose pour nous, fais quelque chose.
C'est une opposition qui n'a pas de leader, qui n'a pas de structure claire. Est-ce que ça, c'est une force pour le mouvement ou au contraire un désavantage?
C'est une force pour la phase initiale, quand il s'agit de dire « j'en ai assez, abat le tchador », etc. Et donc tout le monde rentre dans le mouvement, ce qu'on a vu pendant ces deux mois. Mais c'est insuffisant si on veut passer une autre phase. Parce que le gouvernement iranien et le président Raïssi est quelqu'un d'expérimenté et d'efficace. À peine deux mois au pouvoir, il a restructuré toute la police pour que la police nationale et les gardiens de la Révolution soient coordonnés dans une seule structure efficace. Il s'attendait à ce que ça se passe mal quelque part. Autrement dit, la répression est importante, est efficace. Elle fait 20-30 morts par semaine. C'est une situation dramatique et intenable. Et donc, on peut craindre qu'en Iran, il y ait ce rapport de force qui dure, qui est de basse intensité. C'est un conflit basse intensité, en ce sens que, comme les militaires disent, haute intensité, basse intensité, c'est un conflit où il y a 300 manifestants ici, pendant une demi-heure, il y a 2-3 morts, et puis ça disparaît. Et puis, 20 km plus loin, ça repart. Et ça ne s'arrêtera pas, cela. Parce qu'il n'y a pas de leader, justement. C'est spontané. C'est individuel. Et donc ce phénomène-là, parce qu'il a en plus été réprimé, ne s'arrêtera pas. Mais c'est un mouvement de basse, de forte intensité, parce que, c'est justement comme ça, de basse intensité, parce qu'il n'y a pas de conflit majeur. Il n'y a pas 300 000 personnes dans la rue qui provoqueraient quelque chose. Et donc ça peut se continuer longtemps comme ça, mais avec un pourrissement. Et à la fin, on l'a vu en Syrie, c'est un conflit de basse intensité, la Syrie. Bachar el-Assad est toujours au pouvoir. Après des millions de morts, mais c'est pas important, ça.
Mais pourtant, malgré la répression, qui est quand même très violente, les manifestants continuent de descendre dans la rue. Et je vous propose d'écouter cette jeune Iranienne jointe par notre journaliste Oriane Verdier. Alors, elle est en Turquie, elle a fui le régime, mais elle est en contact avec ses proches qui manifestent en Iran. Et pour sa sécurité, eh bien, elle a demandé à garder l'anonymat. On l'écoute.
C'est sûr, c'est plus violent qu'avant. Les gens qui descendent dans la rue sont beaucoup plus énervés. On a célébré le 40e jour de deuil de Mahsa Amini, puis celui de Sarina, puis celui d'un tel ou d'une telle. Le fait que les gens continuent d'être là, successivement, montre qu'ils sont énervés. À chaque nouveau mort, la colère monte, et la violence avec elle. La manière dont les choses se déroulent fait que le régime ravive plus encore le feu de cette violence.
Ce que dit cette jeune femme, c'est qu'il y a une forme de spirale de la violence. Oui. Est-ce que les autorités iraniennes se retrouvent en quelque sorte piégées dans une forme de cercle vicieux?
Tout à fait. Ils se rendent compte qu'un mouvement qui est concentré sur 500 000 personnes dans un lieu ou deux lieux, ça peut se manifester. On peut faire aussi 3 000 morts, Tiananmen, on tue massivement. Ils se rendent compte que ce genre de manifestation n'a pas lieu et n'a pas lieu de se faire. parce que ce sont des petits mouvements éclatés partout. Et mais ils sont paniqués parce que la police n'est pas assez nombreuse pour contrôler. Donc quand elle intervient de façon, spectaculaire. Elle va tuer directement pour dire aux autres, voyez, par vos réseaux sociaux, faites passer le message. Vous étiez 50 à manifester en ce coin de rue, des élèves de terminale, j'ai fait 2 morts. Et donc, mesdemoiselles de classe terminale, s'il vous plaît, ne manifestez pas. Et donc, il y a eu une spirale de la violence qui est enclenchée. Mais comme il y a beaucoup d'habitants, beaucoup de gens qui sont prêts à manifester, ça continue, bien évidemment.
Et est-ce qu'il y a des dissensions au sein du régime? On a entendu certains dignitaires s'interroger ouvertement. Est-ce que c'est le signe de division?
Alors, jamais les mollahs n'ont été unis. Les gardiens de la révolution, pareil. En Iran, il y a plusieurs factions, Ces factions radicales sont aujourd'hui au pouvoir, les seules. Les modérés ont été éliminés politiquement. Et donc, quand vous avez des amis de 40 ans qui sont dans le même gouvernement et face à un tel mouvement, c'est ta faute à toi, tout le monde se renvoie la balle. Et ils ont la nécessité d'être unis, mais ne sont pas unis du tout. Et on a vu effectivement un certain nombre de politiciens essayer de tirer la couverture à eux, disant « c'est pas normal de tuer des gens comme ça, soyons plus ouverts, etc. » Ils ne sont pas crédibles, parce qu'eux-mêmes ont réprimé par le passé. Cela dit, les dissensions arrivent, et on sait, et c'est toute la question essentielle, de savoir comment, à l'intérieur du système, les choses ont évolué. On a vu qu'à une époque, même la plus dure, il y a eu des dissensions importantes qui ont abouti à ce que des pans entiers de la vie politique iranienne soient mis en prison.
Alors, est-ce que l'issue, c'est forcément, peut venir de l'intérieur? Est-ce qu'il peut y avoir des réformes ou est-ce qu'on est pris dans un mouvement où, de toute façon, on a l'impression que les manifestants aujourd'hui demandent la chute du régime?
Oui, ils peuvent souhaiter ça. So what? Comment faire? S'ils ne veulent aucune concession, il faut bien qu'il y ait quelqu'un en face d'eux sur lequel on fasse pression. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est comment être présent en Iran aux côtés des manifestants? Nous sommes ici en France, que faisons-nous? Il y a eu des sanctions qui ont été faites contre l'Iran. Des sanctions économiques que Trump a mises en place.
Le département du Trésor, aujourd'hui, a pris de nouvelles sanctions contre les responsables de la répression.
Répression. C'est-à-dire, et ceci est à mon avis un peu scandaleux, on va condamner quelques généraux gardiens de la Révolution ou policiers qui n'iront pas sur la Côte d'Azur, ils n'iront pas aux États-Unis. Ils n'ont jamais eu l'intention d'y aller. Donc, comme réponse occidentale, à condamner simplement de ne pas donner de visa à quelques cerbères et pas à la hauteur. Il faut voir qu'aujourd'hui, nous n'avons aucun moyen de pression sur l'Iran. Sur le nucléaire, il continue d'enrichir, on n'a rien fait. Et donc, il y a des menaces qu'il y ait une intervention extérieure israélienne, par exemple, si ça dérape. Que faisons-nous de ce point de vue-là? Que faisons-nous pour que le gouvernement iranien n'écrase pas la population du plan économique? On ne fait rien. Si nous avions si l'accord sur le nucléaire, jamais, ceci que je dis est un blasphème, mais si l'accord sur le nucléaire était signé, ça permettrait de contrôler le nucléaire et donc d'éviter que les plus radicaux en Iran utilisent cette arme. Ça obligerait les diplomates à Téhéran à pouvoir faire pression sur le gouvernement iranien. Et s'il y a les business qui continuent, ce n'est pas de l'argent donné aux mollahs, c'est de l'argent donné au peuple iranien aussi.
Mais cet accord sur le nucléaire, ces négociations sur le nucléaire patinent.
Oui, elles marchent mal et c'est presque éteint. Cela dit, le gouvernement, les plus radicaux n'en veulent pas. Et donc, si on réussissait à imposer cela, les radicaux n'en veulent pas de cet accord. Ils ne veulent pas de ça. Ils veulent une bombe atomique et veulent écraser la population. On leur avait imposé cela en 2015. Il faut le réimposer, à mon avis. C'est le seul moyen qui existe. Il y en a peut-être de meilleurs. Je n'en connais pas d'autres pour essayer de faire pression sur le gouvernement. Arrêtons de soutenir, par notre incurie, le gouvernement de Téhéran.
Le Conseil des droits de l'homme qui se réunit demain à Genève.
C'est très bien. Condamnation qui va renforcer le gouvernement iranien dans sa légitimité à dire « on a bien raison de taper sur ces filles qui veulent enlever les tchadors, nous défendons-nous d'autres valeurs que la commission de l'ONU ».
Emmanuel Macron qui reçoit 4 opposantes après avoir serré la main du président à l'ONU.
Oui, là, je soutiendrai le président Macron qui dit « il faut aller au front, ce n'est pas en désertant le champ de bataille qu'on vainque ». Donc il faut aller voir les gens et c'est en les voyant qu'on peut faire pression. Ce n'est pas en envoyant un tweet à M. Khamenei disant « dégage ». Il ne dégagera pas si on envoie 1 million de tweets.
Est-ce que vous croyez que la situation peut s'éterniser comme ça pendant longtemps, très brièvement? Ça peut continuer longtemps?
Je crains, comme je vous le disais, que ce conflit de basse intensité continue, perdure, parce qu'il est de forte intensité, donc il est dans les tripes des gens et des jeunes. La répression scandalise tout le monde, mais que faire? Et tant que la classe moyenne des gens qui ont 30-50 ans, qui sont écrasés par la crise économique, ne participe pas au mouvement, eh bien, le mouvement risque de continuer comme ça et les centrales nucléaires de continuer de fonctionner.
Bernard Orcade, merci. Je rappelle que vous avez écrit « L'Iran paradoxal » aux éditions CNRS. Merci à Claude Battista à la réalisation.